l'Épître de Saint Jean sur le discernement spirituel. Je voudrais commencer par un peu de définition. Il y a une différence entre le discernement spirituel et le discernement scientifique ou celui des affaires. Les scientifiques, ils regardent comment fonctionne la nature. On réfléchit à essayer de comprendre ce qui se passe et on énonce des lois physiques de la nature. Mais ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'homme. C'est une prise de connaissance du monde matériel. Il y a le discernement des affaires, c'est-à-dire que comment se mettre en affaire avec des gens corrects et comment éviter les catastrophes ambulantes dans tout ce qu'on peut faire, s'associer avec d'autres pour faire une association, pour faire une construction, une entreprise, je ne sais pas quoi. Là, il s'agit plutôt d'un discernement psychique sur les bons associés possibles, voire les conjoints ou les compagnons de route, que sais-je. Le discernement spirituel, c'est répondre à la question, spirituellement parlant, celui-ci, qui est-il ? Dans son dimension de esprit. Vous connaissez corps, âme, esprit. On vous a déjà dit ça dans différents passages de l'Écriture. Il est question de corps, âme et esprit. Notre esprit, c'est la partie la plus élevée de l'âme qui est capable d'entrer en communication avec le monde invisible. Et c'est de cette dimension-là que nous cherchons à répondre à la question « Qui est-il ?» Maintenant, je voudrais distinguer entre jugement et discernement. Le jugement, ça consiste à mettre quelqu'un dans une catégorie et on a tendance à ce que ce soit une catégorie définitive et d'enfermer l'autre dans une catégorie qui nous est apparue. Parfois, ça peut aller jusqu'à condamner dans son intériorité, condamner l'autre. Le jugement n'est pas le discernement. Le discernement tient compte du respect de l'autre en disant qu'il s'agit de savoir, spirituellement parlant, comment est-il orienté, vers les ténèbres ou vers la lumière, et en sachant que quelqu'un qui chemine vers la lumière peut tomber gravement dans le péché et s'enténébrer, que c'est donc pas définitif tant qu'on est vivant. Et puis ça peut être quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui tout d'un coup se convertit. Il y a des récits de conversion de saints qui étaient dans les ténèbres et qui se sont retournés vers la grâce divine, vers la volonté de Dieu. Et puis la confession de leurs péchés et la délivrance de leurs péchés. Et donc, le discernement, il dit la situation actuelle et il ne préjuge pas de ce que va devenir la personne. Elle n'est pas enfermée dans une catégorie. Et j'espère que vous comprenez la différence entre jugement et discernement, qui sont deux mots français bien distincts. Maintenant, je voudrais aborder le premier critère que la tradition appelle le critère des bons et des mauvais fruits. Je suis dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7, versets 15 à 20. Et d'abord verset 15. « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus de peaux de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. » C'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples dans le contexte. Matthieu chapitre 7. Et il parle des faux prophètes. C'est, à notre époque, il y a beaucoup de prophètes, vous savez, qui nous disent que ça va être des catastrophes, il va y avoir des guerres et des bruits de guerre et tout ça. Distinguer entre les vrais et les faux prophètes, tel est le contexte dans lequel le Christ parle. Mais ça peut s'appliquer à des tas d'autres personnes qui ont une œuvre à accomplir sur la terre et se poser la question, celui-là, spirituellement parlant, comment est-il ? Alors, je continue la lecture de l'Évangile. Verset 16. « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur des chardons ?» Ensuite, il dit « Tout bon arbre donne de bons fruits, tandis que les mauvais arbres donnent de mauvais fruits. » Tout bon arbre donne des bons fruits, tandis que les mauvais arbres donnent de mauvais fruits. Et il insiste. Verset 18. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, pas plus qu'un mauvais arbre n'en peut porter de bons. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et donc, c'est dans la parabole de l'arboriculture et de la récolte des fruits que notre Seigneur Jésus-Christ met sa comparaison. Et il conclut, le Christ, en disant « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et donc, quand on est devant quelqu'un et on se demande qu'est-ce qu'il est spirituellement, est-ce qu'il est orienté vers la lumière et vers les grâces venues du ciel, ou est-ce qu'il est dans les ténèbres, eh bien, on le reconnaît au résultat de ses entreprises, de ce qu'il fait, de ses œuvres. Et c'est un critère universel qui a un petit défaut, il faut du temps. Parce que entre le moment où l'arbre pousse et le moment où on teste les fruits, il faut du temps, il faut espérer. Et donc, il y a des circonstances où il s'agit d'une famille, il s'agit d'une nation, il s'agit de ces êtres collectifs. Les résultats de leurs œuvres, sur des siècles ou sur des millénaires, il faut attendre très longtemps pour avoir le fruit et savoir s'il est bon ou mauvais. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un critère universel, mais qui demande du temps, de la patience. Et au passage, je voudrais dire que notre mémoire a une valeur. Le travail d'historien, ou le fait que nous nous souvenons de ce que nous avons vécu avec telle ou telle personne, nous permet de faire fonctionner ce critère posé par Jésus-Christ lui-même, et d'apprécier s'il y a des fruits, bons ou mauvais, quand on arrive la période des fruits. Merci, c'est gentil.
Il est un peu chiffonné.
Oui, mais j'ai petit incident technique. Il n'empêche que c'est le critère principal que le Christ demande d'utiliser quand il parle à ses disciples. C'est comme ça qu'il leur parle. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre critère qui est dans la tradition, puisque c'est la première épître de Saint Jean. On est au chapitre 2, versets 21 à 23. Et c'est dans la lettre, Saint Jean parle ou écrit à ses disciples. Il dit, « Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Pour nous, nous savons quelle est la vérité. » C'est que le Christ est mort et ressuscité. C'est ça la vérité essentielle de l'histoire de notre humanité. Et Saint Jean continue. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Voilà l'antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils possède aussi le Père. D'où la question que l'on peut poser à la personne en face de soi, que dis-tu du Christ? Et là, il peut y avoir plusieurs réponses. Il peut y avoir la réponse de quelqu'un qui dit « Surtout ne me parlez pas de celui-là. » Et qui s'enfuit ou qui esquive de répondre en face parce qu'il n'est pas dans la lumière de la résurrection. Ça peut être quelqu'un qui dit « Mais bien sûr, le Christ est ressuscité. » Et à ce moment-là, on sait qu'il est dans la lumière de la vérité, selon le critère de Saint Jean. Et puis, il y a une réponse possible. Quelqu'un, quand on lui dit « Que dis-tu du Christ ?» qui répond « Je ne sais pas très bien, je ne connais pas bien, peut-être que oui, peut-être que non. » C'est quelqu'un qui est indécis, mal informé, qui n'a pas réfléchi, qui n'a pas reçu l'information de la résurrection du Christ dans son cœur, qui a entendu parler vaguement. Et nous avons affaire à des personnes qui sont entre deux, qui n'ont pas fait leur chemin d'évolution vers la foi chrétienne. Et c'est intéressant à situer, il y a un certain nombre d'athées de notre époque qui sont comme ça. Et je voudrais insister sur la confession de la foi qui va avec le critère de Saint Jean. La confession de la foi, eh bien, le prêtre dit au catéchumène « Confesse ta foi ». Et là, il dit le symbole de la foi. Et c'est sur ce critère-là que se fonde l'appartenance à l'Église. Parce que c'est un critère de lumière. Et c'est le critère de Saint Jean nous le met tout à fait en évidence, que la confession de la foi est une porte qui nous permet d'établir les sacrements, soit le baptême, soit la chrismation. Monseigneur Jean de Saint-Denis ne faisait pas baptiser ceux qui étaient baptisés dans une autre église, par exemple l'église catholique, et qui voulaient arriver à la foi orthodoxe, ils le faisaient avec confesser la foi et ils faisaient la chrismation comme entrée appartenance à l'église. La racine de cette attitude ecclésiale, elle est écrite texto dans Saint Jean, premier épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 21 à 23. Je dirais aussi que ce critère, il est rapide. Parce que quand je rencontre un homme, quelqu'un de notre humanité, un homme, une femme ou un enfant, ou quand je rencontre un ange, je pose la question, que dis-tu du Christ? Et à la réponse de la personne, le critère, il est clair, tout de suite. Il ne prend pas le temps des bons et des mauvais fruits pour arriver à une maturité, il est immédiat. Sauf qu'il n'est pas universel. C'est le critère des bons et mauvais fruits qui est universel. Mais c'est le critère de Saint Jean qui est rapide. Sauf qu'il y a des circonstances où je ne peux pas poser cette question comme ça. Par exemple, dans le monde du travail où pas mal d'entre nous vivent, on ne peut pas poser à son supérieur hiérarchique « Que dis-tu du Christ ?» Ça fait bizarre. On n'est pas dans le contexte où on peut poser cette question librement. Et puis, quand on a affaire à un être collectif comme une famille ou une nation, alors, évidemment, on pourrait parler à l'archange de la nation en lui disant « Que dis-tu ?» Mais on n'est pas tous capables de converser directement avec un archange. C'est pas facile. Il faut être ouvert à ce genre de relations. Il y en a qui sont habitués de vivre avec les anges comme ça, mais pas tout le monde. Il faut être en situation de pouvoir poser la question. Et quand on a affaire à un esprit où on se pose la question de qu'est-ce que c'est que ça, on peut lui dire une forme de bénédiction, c'est-à-dire si tu viens de Dieu, sois le bienvenu, si tu ne viens pas de Dieu, retourne d'où tu viens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec le signe de croix en prime. Et donc, si c'est un esprit de ténèbres, il fout le camp. Il déguerpit. Il se détourne. Il n'est plus en face. Et si c'est un esprit de lumière, il nous répond par une bénédiction. Par exemple, Gabriel qui visite la Vierge Marie à l'Annonciation, eh bien, il la salue. Et donc, Marie sait à qui elle a affaire. Vous comprenez cette relation avec l'ange. Ça peut être toutes sortes d'ectoplasmes ou fantômes, que sais-je, que vous rencontrez. Vous pouvez poser cette question. Si tu viens de Dieu, sois le bienvenu. Si tu ne viens pas de Dieu, retourne d'où tu viens. C'est très rapide. Ça dit tout de suite ce que ça veut dire. Maintenant, je voudrais aborder ce que la tradition appelle les goûts spirituels, c'est-à-dire le suave ou l'amer. Il y avait dans l'épître de ce matin, il était question de quelque chose d'amer. Eh bien, amer, ça peut être pour la nourriture que l'on goûte, mais ça peut être aussi la qualité spirituelle de quelque chose que l'on rencontre. Et donc, c'est des mots qui sont faits pour la cuisine ou le goûter, mais ils sont utilisés dans la tradition pour qualifier des situations où on ressent quelque chose qui est suave ou amer. Par exemple, celui qui me touche le plus, que j'ai envie de dire là, c'est la coupe d'amertume à l'agonie de Jésus. Qu'est-ce qui est amer quand il est à Gethsémani? Ce qui est amer, c'est la mort qui approche. Et le Christ est bouleversé par... Il sait tout à l'avance. Il sait que ça va arriver. Il sait qu'il va y aller. Mais c'est amer. Parce que la mort n'est pas naturelle à l'homme. Nous sommes créés pour vivre éternellement. Et pourquoi est arrivée la mort dans l'histoire de notre humanité? C'est pour mettre un terme au péché. Le péché ne peut pas être perpétuel parce que la mort arrête le péché. Mais c'est quelque chose qui n'est surajouté à la nature humaine et qui n'est pas fondamental de la nature humaine. Et donc, il y a des tas d'autres situations où on ressent quelque chose de suave ou de joyeux qui est un effet de qualité spirituelle de ce que nous traversons. Alors, ça devient aussi, quand on pratique le discernement spirituel et qu'on a un peu l'habitude, on développe à l'intérieur de son cœur une vision de ce qui se passe dans notre cœur et les critères de Saint Jean ou les critères des bons et des mauvais fruits deviennent une habitude ou un critère intérieur. On peut poser la question non pas à une personne que l'on rencontre, comme je l'ai dit au début de cette catéchèse, mais à un mouvement de notre cœur. J'ai l'intention de faire ceci. Qu'est-ce qui m'inspire cette intention, ce projet, avant de m'engager une entreprise, quelque chose que j'ai envie de faire, j'ai envie pourquoi. Et ça peut être inspiré par Dieu, ça peut être une tentation du malin, ça peut être mon bon plaisir, très courant ces choses-là. Et le discernement spirituel, on peut le poser sur les mouvements de notre cœur qui pose la question d'où me vient l'inspiration de faire ce que j'envisage. Il vaut mieux répondre à la question avant d'entreprendre que après quand on est dans le désastre. Parce que et donc, il y a une sorte d'humilité, distanciation, qui nous permet de poser la question « qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ?» Ça fait partie du discernement spirituel. Alors, il y a quantité de documents que je ne peux pas les citer tous, là, tous les livres de sagesse qui sont dans la Bible depuis Kohelet, les psaumes, tous les livres de sagesse qui sont entre les livres historiques et le Nouveau Testament, vous en avez des quantités avec des histoires de prophètes. Vous avez quantité de sagesse biblique. Vous avez aussi la sagesse populaire. Il y a des dictons en langue populaire qui parfois sont des perles de discernement. Et j'ai un petit faible pour les fables de La Fontaine et leur conclusion. Il y en a qui sont savoureuses. Et il y a une différence entre les fables d'Ésope et les fables de La Fontaine. Ésope, c'était dans l'époque romaine. Et c'était pas mouliné avec la tradition chrétienne. Jean de La Fontaine, il y a quand même 2000 ans presque 2000 ans. 17 siècles de christianisme qui ont fait que lui-même et sa famille étaient des chrétiens, et c'est un peu plus chrétien que Ésope, mais c'est de la même veine fondamentale. Ça fait partie des choses qui m'amusent, et il y a des perles comme ça dans les conclusions des fables de La Fontaine. Il y a d'autres critères que je peux avancer. Il y a celui de l'amour universel. Celui qui est capable d'aimer ses ennemis, celui-là, il est dans la lumière. Même chez nous, il y a du travail à faire. Parce que aimer ses amis, ça va encore assez bien. Aimer ses ennemis, c'est plus difficile. Donc, ça fait partie de ce que je peux appeler les perspectives à atteindre. Je mettrai avec l'amour universel le respect de la vie. Ça correspond à un commandement de Dieu dans le Pentateuque qui dit « Tu ne tueras pas ». Respecter la vie, aussi bien animale humaine, c'est quand même un signe de spiritualité avancée qu'on observe chez un certain nombre de saints ou de moines et même des laïcs qui ont avancé un peu dans le tri entre la lumière et les ténèbres, le respect de la vie. Enfin, il y a une confiance en Dieu qui produit la joie. Et on dit un saint triste est un triste saint. Ça fait partie des dictons. Un saint triste est un triste saint. Ça fait partie du langage populaire, excusez-moi un peu, de mettre le... Mais, et donc... Les saints évoluent vers la joie, ce qui n'empêche pas la souffrance, ce qui n'empêche pas les difficultés, les combats. Mais il y a une joie qui repose sur la confiance en Dieu. Et il y a un combat spirituel qui se présente devant nous et qui a pour clé de révéler chacun dans le respect des personnes physiques, uniques. Nous sommes tous des personnes uniques qui devons prendre notre place dans cette vie. Chacun est appelé à une place unique, particulière. Et dans la fraternité, nous avons à aider les uns et les autres à trouver chacun sa juste place. C'est ce que j'appelle révéler chacun. Encore un mot sur le don de Dieu. Le discernement est un don de Dieu. Et on l'a un peu ou beaucoup. On peut l'avoir d'une façon sacramentelle, avec le baptême et la chrismation. Nous recevons la présence divine en nous, y compris le début ou les arts du discernement spirituel. Et quand on commence à utiliser le discernement, ça se développe lentement en nous. Et donc, nous avons la possibilité, de cette façon-là, de recevoir l'usage des critères qui sont transmis par Dieu directement et qui constituent une mémoire en nous qui nous permet de dire tel et tel et tel événement que j'ai vécu sont tous des éléments suaves, tel et tel et tel événement que j'ai vécu dans ma vie ou échec que j'ai rencontré dans ma vie sont amers. Et par analogie, on développe le goût du suave et le goût de l'amer en soi-même. C'est quelque chose qui grandit au fur et à mesure que notre existence se développe. En conclusion de tout ceci, je voudrais dire quelques mots des starets. Ce sont des hommes qui, dans la tradition orthodoxe, sont considérés comme des maîtres du discernement spirituel, qui étaient consultés non seulement par leurs disciples immédiats, mais parfois par des quantités de personnes qui faisaient le chemin pour aller voir le starets et lui poser quelques questions, généralement de leur vie. Il demandait au starets. Et ces hommes-là, les starets, ont développé la capacité de comprendre, de lire dans l'âme de ceux qu'ils viennent de consulter et d'avoir des réponses qui sont individuellement ciblées, adaptées à la personne qui est devant eux. Il y en a toujours eu. J'ai récemment entendu parler de Saint Joseph le Starets, qui était d'origine russe et qui a vécu au mont Athos, à peu près à l'époque de Starets Silouane, qui est un autre Starets. Il y en a toujours eu dans l'Église orthodoxe, pas forcément dans la paroisse, mais accessible de toute façon, même s'il faut faire quelques kilomètres pour aller les consulter. Il y en a toujours eu, et dans les circonstances importantes, graves, où on doit prendre des décisions de vie, on peut aller consulter non seulement ses frères et sœurs en Christ, immédiat, mais le starets qui peut nous accorder un rendez-vous de visite. Et alors, c'est peut-être pas spécifique de l'Église orthodoxe, mais ça a toujours existé dans l'Église orthodoxe. Je suis à l'écoute de vos questions.